Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance.
Cash is king. Sébastien Veillet, CEO et cofondateur d'Agicap à Lyon, Philippe Colombel, Managing Partner chez Partech et Gabriel Thomas, Investment Director chez Blackfin à Paris.
La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre et il y a même une expression pour ça chez les anglo-saxons qui disent que cash is king. Et cette réalité est encore plus vraie chez les dirigeants de PME pour qui le cash, c'est vraiment ce qui est à l'origine de toutes les décisions.
Ça fait longtemps qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire pour le segment des PME qui est mal desservi parce que les plus grosses sociétés logicielles ont des fonctionnements commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés à cette granularité et que les outils sont parfois trop complexes et avec une proposition de valeur un peu trop foisonnante où les dirigeants de PME s'y perdent. Et du coup, je suis rentrée à Paris pour rejoindre mon équipe et on a tout de suite parlé d'Agicap.
Le fait que Agicap accumule autant de données sur autant de secteurs laisse entrevoir des possibilités d'adjonction au business model qui sont très intéressantes.
Sébastien nous fait faire un voyage dans le temps sur cet épisode. Il reprend avec nous toute l'histoire d'Agicap, que ce soit le développement produit, les intégrations permettant d'agréger les sources de données variées, l'internationalisation de cette solution de gestion de trésorerie qui devient un véritable cockpit financier de la PME. Gabriel revient sur les débuts de la relation de Blackfin avec Agicap, notamment les premières discussions avec la start-up lyonnaise qui lui donne de nombreux signaux très positifs et qui décide le fonds de VC à investir dans ce tour de seed. Philippe, quant à lui, revient sur les convictions de Partech sur ce segment de marché et son potentiel extraordinaire, tant au niveau du développement produit que de l'internationalisation. Nous découvrons également les secrets des différents tours de table et notamment le tout dernier annoncé récemment dans lequel est rentré l'investisseur américain Greenoaks. Autre élément que nous abordons, la gestion de l'hypercroissance, l'accompagnement des VC, le Japon ou encore la consolidation. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bonjour Gabriel, bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Solène.
Alors merci Philippe de nous accueillir chez Partech pour faire cet enregistrement qui est une première pour FinScale avec donc trois invités. L'objectif aujourd'hui, c'est bien entendu de parler d'Agicap et puis de parler de la relation d'Agicap avec ses investisseurs, donc Partech et Blackfin. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, vous demander de vous présenter rapidement?
Avec plaisir. Sébastien, je suis un des trois fondateurs d'Agicap et le CEO. Moi, je suis originaire de Lyon, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé 4 ans dans le conseil, dans les services financiers avant de lancer Agicap, fin 2016. Et voilà, depuis, l'aventure Agicap a démarré et on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus en détail.
Merci. Gabriel.
Gabriel, directrice d'investissement chez Black Fintech. On investit dans des fintech et des assurtech. Moi, ça fait quelques années que je travaille en tant que VC et j'ai un parcours plutôt école de commerce à l'origine.
Parfait. Philippe ?
Bonjour. Donc moi, je suis Philippe Colombel, le cofondateur de Partech. J'ai commencé ma carrière comme consultant. Ensuite, j'ai été en charge de l'innovation chez Carrefour. J'ai repris Partech en 2008, qui était une petite société de gestion à l'époque. Et on a essayé de la développer au niveau européen depuis.
Parfait, merci beaucoup. Alors, si on revient sur Agicap, Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler donc, du pain point que vous résolvez et de la proposition d'alors? Mais donc, ce qui m'intéresserait que tu nous expliques, on va commencer par ça, c'est les raisons qui ont fait que vous avez lancé cette société il y a quelques années maintenant.
Oui, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre et il y a même une expression pour ça chez les anglo-saxons qui disent que cash is king. Mm-hmm. Et cette réalité est encore plus vraie chez les dirigeants de PME, chez les gens qui gèrent des petites entreprises, du restaurant à l'hôtel, à la petite boîte industrielle, pour qui le cash, c'est vraiment ce qui est à l'origine de toutes les décisions. Donc on a quelque chose qui est une problématique qui est hyper, hyper, hyper forte. Il y a un sondage qui a été fait assez récemment, en début d'année, qui disait que la gestion de trésorerie, la visibilité sur la trésorerie, c'était la priorité numéro une des dirigeants de PME devant les problématiques commerciales, devant les problématiques financières, etc. C'est vraiment la gestion de trésorerie. Donc on a d'un côté un besoin super, super fort.
Attends, je te fais juste une petite pause. C'est-à-dire que ces personnes-là, donc ces dirigeantes, ces dirigeants de sociétés de PME, qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas cette visibilité sur la trésorerie ? Pourtant, ils ont accès en web banking à leur compte en banque. Et est-ce que du coup, sur les web banking, il n'y a pas cette information qui est disponible ?
Exactement. Et en fait, c'est ça qui crée l'écart entre un besoin super fort, un besoin vital qui touche tout le monde, 8 dirigeants sur 10, et finalement, un manque, un trou dans la raquette. Pourquoi ? Tu prenais l'exemple du web banking. En fait, gérer la trésorerie, c'est savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Mais web banking, les dirigeants de boîtes sont multibancarisés. Mmh. C'est-à-dire que sur l'interface d'une des banques, on va avoir une partie des flux passés. Et ça, c'est une problématique assez forte qui a été résolue pour les grosses boîtes, pour les ETI, les boîtes à un niveau enterprise, mais qui n'avaient pas été résolues avant Agicap pour les PME. Et c'est ça un peu l'origine d'Agicap.
Et du coup, ça, vous l'avez identifié parce que toi, tu disais que tu étais consultant. Est-ce que c'est en allant voir des clients que tu t'en es rendu compte ?
Alors, on a eu l'intuition, on a pu identifier effectivement en tant que consultant que c'était un enjeu. Mmh. Alors, on l'a identifié indirectement au départ parce qu'on était consultant dans le secteur bancaire. Mmh. Donc, les banques elles-mêmes étaient bien servies. Par contre, leurs clients ne l'étaient pas. Sur le segment pro, on est pas mal intervenu sur le segment professionnel, c'est le segment TPE-PME. Et sur ce segment-là, il y avait un gros manque que les banques adressaient mal, c'est quelque chose qu'on sentait. Et ensuite, de proche en proche, on a échangé avec des dizaines, des centaines de DAF, de dirigeants, de PME, et on a vraiment pu identifier qu'il y avait une problématique énorme. Et en face de ça, on a identifié, toujours dans cette vie de consultant, une opportunité réglementaire via l'Open Banking en Europe, la DSP2. On s'est dit, ce qui était impossible jusqu'à présent, donner une visibilité en temps réel sur l'ensemble des flux des PME allait devenir possible, et voilà, c'est la jeunesse d'Agicap.
Et alors, juste pour terminer sur ce pain point, avant que vous lanciez Agicap, les patrons des PME ou leurs DAF, comment ils s'y prenaient ?
Beaucoup s'y prenaient sur Excel, et encore aujourd'hui, oui. Hein, 80%, 90% des boîtes gèrent leur trésorerie sur Excel. Et ça, c'est une source de stress énorme. Il y a des retours qui m'ont vraiment marqué de cette première phase, fin 2016, début 2017, avec des échanges vraiment passionnants, avec des artisans, des commerçants qui me disaient « Moi, j'adore mon métier, mais ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de savoir si je serai payé à temps, si moi-même, je pourrais payer les salaires à temps, si je pourrais payer mon loyer à temps, etc. Parce que si je ne le fais pas, si finalement, je n'arrive pas à résoudre cette tension sur ma trésorerie, je peux mettre la clé sous la porte.
Oui. » Alors du coup, vous avez lancé, vous êtes parti vous avez, j'imagine, lancé un MVP. Ça ressemblait à quoi ce produit, le tout premier produit ?
Le MVP donne déjà l'impression qu'on avait une vision structurée d'où on allait aller, oui. Et qu'on passait directement de 0 à 1. En fait, les choses chez nous se sont faites de manière encore un petit peu plus progressive. On a un ADN vraiment très terrain et on est assez fan de la méthodologie Lean Startup qu'on applique encore aujourd'hui. On est en 250 dans la boîte. Mais ce qu'on a essayé de faire au début, c'est donc on avait l'intuition globalement qu'il y avait un sujet. Donc on a commencé à parler, à interviewer de manière très détaillée des centaines de dirigeants et de DAF. Mmh. Puis lorsqu'on a compris un peu la problématique, on a construit un POC qui n'était pas encore un MVP, mais simplement l'interface, en disant est-ce que ça pourrait vous servir. Mmh. En adaptant un petit peu, on a commencé à construire une solution qu'on pensait être le MVP, qu'on a poussé, qu'on a proposé à ces dirigeants, qui nous disaient c'est super, mais ils ne se reconnectaient pas encore. Donc on n'était pas encore tout à fait au stade de MVP. Et de fil en aiguille, en adaptant également notre cible, en passant de boîtes un petit peu plus structurées à des boîtes de plus en plus petites, on a fini par atteindre, au bout de 6 mois à peu près, ce qu'on a considéré être le MVP, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle quelques dirigeants revenaient régulièrement, même s'ils n'étaient pas aboutis, etc. c'était quasiment le MVP, et la vraie étape qu'on considère être le MVP, c'est le moment où on a commencé à leur facturer quelque chose. C'était pas grand-chose au début, 20 euros par mois,
oui.
Mais là, à partir du moment où on est capable de mettre un prix en face, quel que soit ce prix, même si c'est 1 euro, en fait, tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, oui. Et à partir du moment où on est prêt à payer un petit quelque chose, c'est que... il y avait une petite valeur derrière et voilà, donc c'est le début d'Agicap avec quelque chose pas du tout automatisé, en gros un Excel un peu structuré dans lequel on peut pas partir dans toutes les directions.
Mm-hmm.
C'est à ça que ressemblait notre MVP, donc là on est en été 2017.
Parfait, donc vous avez lancé ce produit là, vous avez commencé à facturer avec des clients et puis vous avez rencontré des investisseurs, vous aviez besoin de financer la croissance de votre société. Vous étiez combien juste, si tu pouvais nous le rappeler?
Alors, entre les deux, pareil, ça peut paraître rapide. Donc là, c'est été 2017.
Oui.
Et ensuite, on a démarché, contacté, continué à améliorer la plateforme pendant 2 ans.
D'accord.
Puisque entre l'été 2017 et la rencontre avec Blackfin et l'investissement de Blackfin, c'est passé quasiment 2 ans.
D'accord.
Pendant laquelle on est monté à près de 800, 900 clients déjà.
Ah d'accord, ok.
Une dizaine de personnes dans l'équipe.
Et vous financiez, donc vous étiez, vous aviez suffisamment de revenus pour payer les employés.
Voilà, on était très efficace en cash.
Ouais.
Justement, on avait un petit matelas de départ. On a eu la chance d'être accompagné aussi par le réseau Entreprendre. Mmh. On a fait effet de levier auprès de la banque. Et finalement, ça nous a permis d'atteindre ce premier cap et d'arriver auprès de VC avec déjà une validation du marché, puisqu'il y avait des centaines d'entreprises qui étaient prêtes à payer pour ça.
Parfait, merci beaucoup. Alors Gabriel, maintenant je m'adresse à toi. Comment s'est fait la rencontre avec Agicap? Quels sont les éléments que toi tu as notés en premier lieu, éventuellement, je sais pas, des ratios, des chiffres qui ont fait que tu notes que cette société était un peu différente de ce que tu avais vu auparavant?
Alors mon premier échange avec Sébastien, c'était par téléphone, je crois que c'était en février 2019.
Oui.
J'étais à un événement et dans un séjour un peu de sourcing en Espagne. Et en fait, il se trouve que j'étais surtout en Espagne pour étudier en profondeur une société dans laquelle on voulait investir.
Mmh.
Et quand j'ai eu Sébastien au téléphone, je me suis dit, c'est hyper intéressant. En fait, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire pour le segment des PME qui est mal desservi parce que les plus grosses sociétés logicielles ont des fonctionnements commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés à cette granularité et que les outils sont parfois trop complexes et avec une proposition de valeur un peu trop foisonnante où les dirigeants de PME s'y perdent. Et du coup, je suis rentrée à Paris pour rejoindre mon équipe. Et on a tout de suite parlé d'Agicap, de l'échange que j'avais eu avec Sébastien. À l'époque, il y avait d'autres fonds d'amorçage qui discutaient avec Agicap, et notamment l'un d'entre eux qui m'avait en fait mis en relation avec Sébastien, qui était un fonds d'amorçage lyonnais. Et de mon réseau, de mon expérience avant chez Xange. Et les choses qui nous ont beaucoup plu, c'était le positionnement avec une proposition de valeur très simple, qui était une porte d'entrée essentielle, avec un produit essentiel sur le marché des PME, et qui pour nous était un positionnement très prometteur pour ensuite éventuellement élargir le produit. Et même aller attaquer d'autres géographies en Europe, puisque la trésorerie, c'est un problème universel de tous les dirigeants d'entreprise. Après, on s'est dit, ok, la simplicité du produit, elle est super, mais quelles sont les barrières à l'entrée? Pourquoi est-ce que d'autres ne peuvent pas le faire? Et à ce moment-là, on a approfondi les échanges avec Sébastien, Clément, Lucas et les équipes. Et on a compris qu'ils avaient vraiment une grande soif de passer d'une phase de bootstrap à une phase de scaling. Et d'autre part, une capacité à s'organiser commercialement qui était assez hors du commun par rapport à ce qu'on voyait d'habitude.
Tu peux juste élaborer sur ce sujet-là?
Oui, bien sûr. Agicap a mis en fait, en passant beaucoup de temps avec les DAF et les dirigeants de PME autour d'eux et des centaines de dirigeants et de DAF, comme disait Sébastien, je pense qu'ils ont vraiment réussi à comprendre avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'une sorte de forme d'empathie aussi, quelles étaient leurs problématiques, leur langage, et identifier aussi des patterns de discussions ou de besoins qu'ils avaient, des cas d'usage qu'ils ont ensuite réussi à bien mettre en perspective avec une exécution commerciale sous fond d'itérations répétées pour trouver les bonnes manières de vendre à des PME. Et c'est vrai que je pense que le fait d'avoir bootstrappé pendant 2 ans sur cette société, ça a permis d'arriver avec une certaine humilité aussi sur cette stratégie commerciale. Et ça a fait une grande force pour Agicap. Une autre chose qui nous a beaucoup intéressé dans Agicap au tout début, c'est lorsque Sébastien m'a transmis quelques contacts de dirigeants de PME, et moi j'en avais aussi d'autres en tête, des amis qui pilotent des restaurants, etc. Donc on a appelé une vingtaine de prospects ou de clients d'Agicap, et là en fait j'ai vraiment compris à quel point il y avait un product market fit de dingue. Je me souviens d'un échange avec une femme qui dirigeait un magasin de cuisine, donc une cuisiniste, qui m'avait dit, en fait, avant Agicap, j'appelais ma banque, je notais sur un papier combien j'avais en banque, et je faisais des soustractions avec un stylo sur un papier. Donc, c'était pas même vrai. Pas la phase Excel que Sébastien citait, avec 80-90% de gens qui utilisent Excel pour leur trésorerie. Là, c'était vraiment papier et crayon. Ouais. Et donc, ça générait beaucoup de stress, évidemment, puisqu'elle n'était pas sûre de tout prendre en compte. Puis, d'autre part, c'était pas du tout possible de projeter ça dans la durée, parce que sur un post-it, on peut pas forcément... faire autant de scénarios que sur l'outil d'Agicap. Donc ça nous a beaucoup marqué, et on s'est dit, mais si Agicap permet à ce genre de société de survivre ou de vivre tranquillement avec sérénité, de pouvoir utiliser tous ces insights de prévision de trésorerie de manière à mieux piloter l'entreprise, ça a énormément de valeur pour le tissu des PME.
Parfait, donc tu montes le dossier, tu le présentes à l'Investment Committee chez Blackfin. Et là, vous validez un investissement de quel ordre ?
Donc le tour total d'amorçage était de 2,5 millions.
Oui.
Et donc Blackfin était le principal investisseur sur ce tour.
D'accord. Alors du coup, quand vous investissez comme ça en seed, est-ce qu'il y a une petite due deal qui est faite ? Et est-ce que vous fixez aux entrepreneurs des objectifs, des KPIs pour dérouler la stratégie qui a été discutée au préalable ?
Il y a toujours des due diligence qui sont faites sur plusieurs angles. D'abord, surtout sur le marché. Donc les appels que j'ai passés auprès de dirigeants de PME, ça faisait une grande partie de l'étude de ces due diligence. Mm-hmm. Puis après, on a fait également des due diligence classiques, juridiques et financières, comme pour chaque investissement.
Et puis tu rejoins du coup le board. Comment ça se passe ?
Tout à fait. Donc à ce moment-là, Blackfin a rejoint le board et je représente Blackfin au board d'Agicap.
D'accord, parfait. Et puis, il y a eu un deuxième tour qui est arrivé pendant le Covid. Alors ça, j'aimerais bien te demander, Philippe, comment ça s'est passé, la rencontre donc avec Agicap, et comment on rentre dans le jeu au moment d'une crise sanitaire comme celle-là, sachant que j'imagine, chez Partech, tu avais certainement d'autres choses à gérer en même temps. Comment ça s'est fait, cette rencontre ?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, crise sanitaire ou pas, quand on voit une belle boîte, notre métier, c'est d'investir. Et nous, on avait un angle un peu différent. C'est l'avantage de faire ce métier depuis très longtemps. Moi, j'avais vu Kiriba il y a 15 ans. Et Kiriba, c'était l'ancêtre d'Agicap. C'est une société qui faisait de la gestion de trésorerie. Et comme il y avait beaucoup de services, ce n'était pas une solution purement logicielle à l'époque. Mmh. Il y avait beaucoup, beaucoup de services de mise en œuvre. Ils ont été contraints de monter très, très vite sur des grosses boîtes pour se développer. Mmh. Et le paradoxe, parce que moi, je suis un spécialiste de fintech, le paradoxe, c'est que plus une entreprise est grosse, moins elle a un souci de cash. Et ce que j'ai eu la chance d'être au conseil d'administration d'entreprise du CAC 40 et on ne parle quasiment jamais de cash. Mmh. Alors que... Et donc, l'adage repris par Sébastien tout à l'heure, cash is king, il est beaucoup, beaucoup plus vrai pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises. Mais le paradoxe, c'est que les grandes entreprises, elles ont toujours eu le moyen de se payer des consultants, d'ailleurs, comme était Sébastien à l'époque, pour régler le problème du cash, mettre en place des systèmes avec beaucoup de consultants autour, alors que pour les petites entreprises, c'était impossible. Et donc, moi, je me suis toujours dit, Kiriba, c'est une très belle boîte, ça a été une des premières unicornes françaises, mais il y a sans doute quelque chose à faire de beaucoup plus révolutionnaire. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'on avait vu beaucoup, mais comme Gabriel d'ailleurs, sans doute, on avait vu beaucoup de choses qui voulait révolutionner la compta.
Ouais.
Autour des PME. Il y a de très belles boîtes. Nous, on est actionnaires de Penny Lane. Mais moi, notre souci, ma thèse d'investissement, c'était de dire qu'il y a sans doute quelque chose à faire sur la gestion de trésorerie dans une optique beaucoup plus anglo-saxonne, c'est-à-dire indépendante de la compta.
Ouais.
En se disant, de toute façon, là, et on le sait tous, on a tous fait un peu de finance, ce qui détermine la valeur d'une entreprise, c'est le free cash flow. Mmh. Et le paradoxe, c'est que c'est compliqué pour un dirigeant d'entreprise de savoir quel vraiment est son free cash flow, qu'est-ce qu'il a comme trésorerie disponible. Et donc, moi, je cherchais une entreprise qui parte non pas de la compta, mais qui parte vraiment des flux opérationnels. Donc ça, c'était une thèse d'investissement. Et parfois, on n'a pas de thèse d'investissement. Mais sur ce secteur-là, Partech avait développé une thèse d'investissement. On cherche quelque chose depuis des années sur ce sujet.
Et vous n'avez toujours pas trouvé.
Et on n'avait pas trouvé. Et mes équipes suivent les investissements de nos prestigieux concurrents comme évidemment Blackfin et repèrent le fait qu'il y a une boîte dans leur portefeuille qui fait ça, qui est en train de lever et qui commence de lever. Et pour l'anecdote, moi je partais au ski, mes équipes me disent ils sont à Lyon, je dis ben, je vais m'arrêter au ski, je vais m'arrêter 2 heures, j'arrive dans leur bureau et je suis resté 5 heures en disant c'est incroyable ce qu'ils me racontent, c'est exactement ce que nous on cherche. Et je me suis d'ailleurs fait recevoir un peu rudement par Sébastien et Clément en disant j'en ai marre, on explique toujours que le cash est important, que c'est différent de la compta. On va pas encore vous réexpliquer. On voit des VC qui comprennent rien à cette histoire. L'accueil a été un peu rude pendant la première heure, mais je suis sorti des 5 heures. J'ai appelé mon équipe en disant, je suis presque sûr qu'on a trouvé ce qu'on cherche depuis.
Ça y est.
Donc pour moi, c'était quasi évident qu'ils étaient sur la bonne approche.
Oui.
C'était aussi important pour nous de se dire que ce n'était pas quelque chose que les banques pouvaient faire facilement.
Pourquoi ?
Ben c'est exactement ce qu'a dit Sébastien. Je vais rajouter un élément parce que Sébastien est très, très politiquement correct aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose qui est en train de se produire. C'est que les banques, elles n'ont pas totalement la confiance du patron de PME. C'est-à-dire que elles sont multibancarisées.
Oui.
Elles sont multibancarisées parce qu'elles veulent pouvoir jouer entre plusieurs banques. Mm. Et c'est normal et c'est totalement sain. Et considérer qu'un instrument proposé par une banque va avoir la totalité des flux, je pense que c'est très illusoire. C'est vraiment prendre les patrons de PME pour des naïfs qui ne sont pas. Et donc, ma thèse importante, c'était qu'il y avait de la place pour un acteur indépendant en coopération avec les banques, mais dont l'information était maîtrisée par les patrons de PME. Mmh.
Très intéressant.
Et donc, ça, c'était notre thèse, nos 3 éléments de thèse.
Ouais.
Hein. Un outil qui soit vraiment du soft et pas, dont il n'y ait pas besoin de mois de mise en œuvre, parce que c'est les outils de la compétition, c'est des mois de mise en œuvre.
Mm-hmm.
Ça a deux effets, ça décourage les PME, mais pour nous investisseurs et pour Sébastien, c'est pas bien non plus, parce que le conseil, c'est moins scalable, pour utiliser cet anglicisme affreux, que du pur soft.
Ouais.
Donc ça, c'était important. Deuxième chose, c'est que ça soit vraiment du flux de trésorerie, pas de la compta. Et troisième chose, ça soit quelque chose difficilement applicable par une banque.
Okay.
Donc on a trouvé ces 3 éléments. Après, il y a le jeu normal. Et il y a quelque chose de subtil à voir. C'est que Gabrielle, elle voulait vraiment investir dans cette boîte. Et nous, quand vous arrivez en série Z, c'est important de voir si le fonds de seed, il n'a vraiment plus d'argent, parce que parfois le fonds de seed a fait son boulot de seed, il ne peut pas réinvestir.
Ouais.
Mais comme Gabrielle fait du seed et de la série A, c'était important pour nous de tester aussi si elle voulait réinvestir.
Ouais.
Parce que si un fonds qui fait du seed et de la série A veut réinvestir, c'est quand même un meilleur signe que s'il vous laisse. Il est très très souple sur son prorata dès le début.
D'accord.
Donc là, il y a tout un jeu de compréhension de la façon dont on se positionne. Et ce qui a été une négociation avec Blackfin, ça a été plutôt de nous laisser à cette place.
Carrément.
Voilà, donc, et c'est important parce que dans ces investissements à thèse, Si vous trouvez une entreprise qui répond à votre thèse d'investissement, il faut jouer gros, avoir suffisamment d'ownership pour accompagner l'entreprise. Et pour reprendre ce que disait Gabriel, il y a quelque chose de très intéressant sur la gestion de trésorerie, comme le considère Agicap, c'est que c'est scalable internationalement.
Ouais, j'allais le dire.
C'est le même problème partout et on est un peu indépendant. Les systèmes comptables sont une des sources d'approvisionnement, mais pas la source unique. Mm-hmm. Et donc, être branché à plein de systèmes opérationnels, ça, c'est réplicable internationalement.
Ouais. Alors que pour la comptabilité, justement, c'est potentiellement plus compliqué.
Ouais. Ouais. Le tour, le montant du tour, c'était 15 millions d'euros.
Oui.
C'est ça. Et il vise à financer quoi, le développement à l'international ?
Non, pas à ce moment-là. Il vise à accélérer, à prendre de la place en France, où il y a juste en France, il y avait suffisamment de place pour créer une grosse entreprise. Et donc à ce moment-là, le but, c'était de passer d'une vingt-trentaine de personnes, peut-être à une centaine de personnes en accélérant vraiment sur la France, en industrialisant un peu tous les process.
Parfait, merci. Alors Philippe, je voulais juste terminer avec une question. Je me rends compte que je ne te l'ai pas posée. On est dans un cas de figure où Partech accompagne donc un primo-entrepreneur, une équipe de primo-entrepreneurs. Dans ce type de situation-là, comment vous positionnez-vous en tant qu'investisseur pour accompagner un primo-entrepreneur versus un serial entrepreneur ?
La seule règle de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc,
on s'adapte.
Dans le cas d'Agicap, on est dans un cas très particulier parce que Sébastien donne avoir l'impression d'avoir un peu tâtonné, mais en fait, par rapport à d'autres entreprises, le product market fit, il a été trouvé très 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 vite. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas cette phase de premièrement, et deuxième chose, et il y a deux choses qu'on fait nous dans les entreprises en early stage, c'est le product market fit et le positionnement. Mm-hmm. Et là, dès le début, ces deux éléments sont très très clairs lorsqu'on investit déjà chez Agicap. Blackfin avait sans doute fait un très bon travail auprès de Sébastien et Clément, qui sont également des entrepreneurs très très doués. Et donc, le jeu est évident. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que 18 mois après, et quand Greenhawk est arrivé, le positionnement, la thèse d'investissement, tout est très c'est très clair.
Ouais.
Et c'est même un peu déroutant. C'est tellement clair que c'est un peu déroutant parce que la question que tu m'as posée, comment ça se fait que ça n'existait pas avant ? Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans de très bons investissements. On avait fait... une anecdote, on a fait Price Match qui faisait du pricing d'hôtel. Quand l'entrepreneur d'ailleurs qui a fondé Penny Lender est venu nous voir, il nous disait il n'y a pas de système de pricing d'hôtel. Le meilleur pricing qu'ils font, c'est le prix de l'année dernière. On se dit c'est pas possible. Et on a appelé des gens, on a appelé Accor. Là, c'était la même chose. C'est tellement évident, c'est un besoin tellement évident, tellement prégnant qui devrait être depuis longtemps servi par le marché. En fait, il ne l'était pas. Et donc, il y a eu beaucoup moins d'accompagnement. L'accompagnement qu'on a fait, c'était plutôt sur accélérer le développement international parce que, comme le disait Gabriel, c'était facilement exportable.
Parfait, merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle de votre proposition de valeur et des services que vous proposez. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la plateforme, de ce qu'elle permet de faire, de façon vraiment très concrète. On parle de plan prévisionnel, vraiment nous donner des éléments de compréhension sur l'offre.
Oui, Agicap, c'est un outil donc de gestion et de prévision de trésorerie. C'est des mots qui sont un peu barbare, mais si on veut synthétiser, ce qu'on fait d'abord, avant d'être capable de faire des prévisions, il faut être capable de suivre. Mmh. Suivre ce qui rentre, ce qui sort, ce qui va rentrer, ce qui va sortir. Et donc, la première brique de notre proposition de valeur, c'est l'agrégation de flux. Mmh. Agrégation de flux qui viennent de plein de sources de données différentes. Et Philippe mentionnait le fait que c'était un peu déroutant de se dire pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été fait ? Parce que sur le papier, c'est très simple, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. En fait, ce qui rend les choses un peu complexes, et c'est qui, même pour une petite entreprise, on reprend l'exemple du cuisiniste tout à l'heure, un cuisiniste, en fait, il va avoir des données sur deux ou trois banques différentes. En plus de ça, le cuisiniste va peut-être avoir un logiciel de caisse qui va donner des informations sur qu'est-ce qui va être facturé demain. Peut-être aussi un logiciel de gestion des stocks, peut-être un CRM pour suivre ses clients. Et en fait, juste là, on parle d'une petite entreprise qui fait peut-être 500 000 euros de chiffre. Il y a déjà 6 sources de données à aller agréger à minima. Et donc, la première brique qu'on offre, c'est agréger les flux de plein de sources de données différentes de manière exhaustive. Donc, de la banque, de logiciels de devis facturation, logiciels de caisse, de RP, de CRM, etc.
Ouais.
Une fois qu'on a ça, on devient souvent, pour l'entreprise, la seule plateforme qui donne une vision temps réel et exhaustive de la situation à date.
Ouais.
Passé, présent, futur proche, sur ce qui est déjà engagé.
Ouais.
Et sur cette base-là, c'est la deuxième brique, on va les aider à faire des prévisions, à prévoir qu'est-ce qui va probablement rentrer d'ici une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, ce qui va probablement sortir. C'est cette deuxième brique, prévision. Et à partir du moment où on est capable de faire ça, on devient un petit peu plus qu'un outil de gestion de trésorerie. On devient vraiment un outil de pilotage de l'entreprise parce qu'ils comptent le plus pour elles leur trésorerie.
Oui.
On devient un outil d'aide à la décision. Est-ce que je peux investir? Est-ce que je peux recruter? En temps de Covid, qu'est-ce qui se passe si je suis fermé à nouveau? Est-ce que je continue pour un restaurant à ouvrir ou avec les restrictions, etc. Donc on va pouvoir faire des scénarios pour vraiment tester l'impact de toutes ces hypothèses sur le business pour prendre des décisions.
Du stress testing, par exemple?
Alors, stress testing, c'est déjà du niveau 2-3, et c'est même un mot un peu barbare qu'on n'utilise pas. Mais avant de faire du stress testing, c'est déjà juste de faire des scénarios. Est-ce que je peux recruter, oui ou non? Et pour les entreprises qui ont déjà un niveau un petit peu plus poussé, il faut se rappeler de l'exemple de Gabriel. Quand on gérait sa trésorerie sur papier, avec papier et crayon, avant de faire le stress test, il faut déjà avoir un scénario central et celui-là tester ponctuellement. Et pour les entreprises un petit peu plus avancées, c'est effectivement encadrer les prévisions avec une hypothèse haute, basse, etc., un scénario positif, négatif, et c'est finalement des stress tests. Et
vous avez mis en place des algorithmes justement pour accompagner les PME?
Tout à fait, avec une partie d'algorithme, mais une partie qui est importante, qui vient vraiment du DAF, du dirigeant, parce que sur les petites entreprises, et ça c'est conceptuel, on pense vraiment que le futur n'est pas entièrement compris dans le passé.
Mmh.
Quand on a une grosse entreprise dans la grande distribution qui exerce depuis 10, 15 ans, 20 ans, 50 ans, il est possible de prévoir de manière raisonnable ce qui va se passer. Pour une petite entreprise, ce n'est pas vrai. Donc on va les aider via des algorithmes à prévoir ce qui est facilement prévisible, probablement prévisible. Et par contre, on leur laisse la main sur ce qui est plus incertain, ce qu'ils ont les seuls à avoir en tête. Et peut-être dernière proposition de valeur qui est importante, à partir du moment où on devient vraiment cette seule plateforme qui agrège les flux passés, présents, futur, entrée, sortie, donc on devient vraiment le cockpit de la PME. Et on va vraiment au-delà finalement de la trésorerie. Et on leur permet de construire leurs propres indicateurs, leurs propres tableaux de bord qui vont au-delà de la trésorerie. Puisque finalement, à travers tous ces flux qu'on voit, on a une vision exhaustive et temps réel de l'entreprise. Et c'est ça.
Et un autre élément que j'avais vu sur votre site web, c'est que vous faites de la conso de filiale. Quand on parle de consolidation, on parle de consolidation de trésor.
Tout à fait, on parle de consolidation de trésor, on parle de consolidation de flux. C'est-à-dire que si j'ai, on a par exemple des clients dans l'hôtellerie-restauration qui ont un client que j'ai en tête, client historique, qui a 10 hôtels, 10 restaurants, il va avoir besoin de savoir sur chacun des hôtels, sur chacun des restaurants, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce que ça tient. Mais à l'intérieur de ces restaurants, à l'intérieur de ces hôtels, il a besoin d'avoir une vue consolidée hôtellerie, une vision consolidée restauration, mais aussi une vision consolidée groupe, parce que certaines décisions se prennent au niveau du groupe, certaines décisions se prennent au niveau hôtellerie-restauration, d'autres se prennent au niveau des établissements.
Et vous pouvez faire ça au niveau européen, c'est-à-dire intégrer des filiales donc d'autres pays. Donc ça nécessitera, est-ce que vous en êtes déjà là, par exemple, avec l'intégration de flux bancaires étrangers?
Tout à fait, on a déjà des clients qui sont très internationaux. On a, y compris d'ailleurs hors Union européenne, c'est un des avantages de notre approche qui n'est pas comptable, ou finalement faire de la consolidation comptable, c'est très dur, surtout si on commence à aller sur différentes géographies. Un de nos clients, c'est Miro, par exemple, qui ont une activité au Japon. On est déjà capable d'intégrer les flux japonais.
Génial.
Il y a des histoires de conversion, etc. L'intégration n'est pas tout à fait automatique parce qu'on ne va pas se connecter à tous les logiciels sur place. Mais une fois qu'eux sont capables de sortir ces données, ils leur donnent une vision de trésorerie consolidée, on va dire.
Vous êtes maintenant combien ? Tu peux nous rappeler le nombre de salariés ?
On parlait tout à l'heure des objectifs qui étaient de passer finalement à une centaine de personnes en se concentrant sur la France. En fait, on a eu la chance, de par le contexte, d'aller un petit peu plus vite que ça. Aujourd'hui, on est à peu près 250 personnes dans l'équipe, je dis à peu près, parce qu'on recrute une cinquantaine de nouveaux collaborateurs par mois, donc voilà, ça évolue vite. Et on est présent déjà dans 6 pays, on s'est lancé l'été dernier en Allemagne, Autriche, en Espagne en début d'année. On a lancé les Pays-Bas il y a 2 mois et on est en train de lancer l'Italie en ce moment.
Parfait, merci. Alors, 2 points que j'aimerais encore... Gabriel, tu voulais parler, vas-y.
Oui, non, je voulais préciser par rapport au développement international. En fait, on avait prévu initialement que AJICAP lance plutôt l'Allemagne en 2021.
Ouais.
Et comme le disait Sébastien, il y a eu un vrai ressenti sur la demande qui augmentait énormément. Peut-être un peu lié au Covid, où il y avait c'était un peu la panique chez les PME européennes. Mais pas que, aussi sur l'évidence du product market fit du produit à l'international. Et du coup, AJICAP a complètement anticipé son déploiement international, ce qui a du coup boosté complètement la croissance aussi par rapport au plan prévu d'une centaine de salariés et de quelques milliers de clients initiales.
Parfait, justement, c'est bien. Ça fait une transition. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, Sébastien, ce qui est très intéressant, c'est que AJICAP, ce sera l'entreprise la mieux placée au niveau européen pour savoir la santé exacte des entreprises d'un secteur.
Oui.
Parce que c'est une vision du cash temps réel. Et comme ils ont beaucoup de succès, ils sont capables d'agréger des données par secteur qui sont extraordinaires.
Hein. Oui, j'imagine. Oui.
Les secteurs étant très larges, hein. Il y a les restaurants, les hôtels, les artisans, les cabinets de conseil.
C'est tout secteur confondu. Toutes les PME ont ce souci-là. Quoi.
Mais tu vois, c'est quasiment... C'est le potentiel d'une entreprise comme ça, c'est une vision temps réel de l'état de l'économie. Hein.
C'est beau quand même.
Ça donne le vertige.
Ouais. Beaucoup de responsabilité.
Philippe m'avait soufflé cette question-là quand on s'était parlé avant la discussion sur la gestion de l'hypercroissance, parce que c'est absolument incroyable. Enfin, tout ce dont on vient de parler là, ces 30 dernières minutes. Comment vous vous préparez à accompagner et comment vous accompagnez déjà maintenant cette hypercroissance, et d'autant plus que vous venez de boucler une série B de 100 millions d'euros avec un investisseur américain qui est Greenoaks. Donc il va s'attendre, j'imagine, aussi à ce que vous ayez une croissance fulgurante. Comment est-ce que vous êtes capable de gérer ça ? Comment vous êtes organisé ?
Tu veux la vraie réponse ou...
Non, je veux la vraie réponse.
En fait, objectivement, on n'était pas préparé à ça, et je ne sais pas si on peut vraiment être préparé à ça, et malheureusement, on n'a pas trouvé la recette miracle. C'est quelque chose qui est pas évident, mais c'est quelque chose qui est assez assez grisant, assez passionnant par ailleurs, et du coup ça donne envie de s'atteler à la tâche. Je pense que le principal levier qu'on a, et le principal investissement, la principale complexité aussi qu'on a à gérer, c'est au niveau des RH. Finalement, tout le reste, ça en découle. L'immobilier, c'est une grosse galère parce qu'on la gestion de l'immobilier, par exemple, est complètement décorrélée de... On signe des baux de 3, 6, 9 ans, alors que nous, on va doubler tous les 3, 4 mois. Enfin, du coup, c'est compliqué. Mais ça reste de l'opérationnel et ça se gère. La vraie complexité, et surtout dans notre activité, où si on veut bien adresser des PME un peu partout, et si on veut prendre l'Europe comme on en a l'ambition, c'est pas prendre quelque chose d'indéfini qui s'appellerait l'Europe. C'est en fait, si on veut être leader européen, il faut être leader dans chacun des pays européens. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut monter une équipe locale avec du marketing local, avec des sales locaux, avec du customer success local. C'est-à-dire qu'il faut adapter la plateforme à ces pays. Ça veut dire... Et du coup, globalement, ça demande de recruter et de faire grossir les équipes. Et donc, on a investi beaucoup Et on a créé une machine de recrutement assez performante, je crois, avec aujourd'hui une quinzaine de recruteurs en interne qui nous permettent d'aller démarcher, attirer les meilleurs candidats pour nous rejoindre. Mais ensuite, il faut être capable de les accueillir, de les onboarder, et là-dessus, rien ne doit être laissé au hasard. Et il faut ensuite être capable de les former, de les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, avec une complexité qui est forte. C'est une entreprise qui grossit plus vite que nous-mêmes, et moi le premier. Et du coup, on a besoin d'accompagnement là-dessus, et l'équipe RH fait un super travail là-dessus, de coaching, de formation.
Parfait, merci beaucoup. Alors, on a plus beaucoup de temps. Un des points que, on en parlait tout à l'heure, Green Oaks a rejoint sur ce dernier tour. Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas qui veut prendre qui veut répondre en premier, mais comment ça se passe quand on a un nouvel investisseur? Donc, à chaque tour, il y a différents investisseurs qui arrivent. Là, on a un investisseur qui est basé aux États-Unis, qui a peut-être des attentes parfois différentes. Comment est-ce que chacun se positionne sur un tour de table comme ça? Gabriel, tu veux commencer?
Oui, déjà, il faut préciser qu'au-delà de Green Oaks, Sébastien, Clément et Lucas ont eu la chance d'avoir le choix entre plusieurs investisseurs qui étaient très intéressés par investir dans cette série B. Et je pense qu'avec Green Oaks, il s'est vraiment passé un contact différent, parce que Green Oaks a tout de suite compris l'ambition d'Agicap, ayant accompagné des sociétés similaires. Green Oaks est notamment investisseur chez Deliveroo, Gorillas, plutôt en B2C, mais et pas mal d'autres solutions, Robinhood, et un peu partout dans le monde. Et donc ils ont l'habitude en fait des sociétés en hyper croissance. Ça, je pense que c'est déterminant. Et par ailleurs, le contact avec Neil, qui du coup rejoint le board, on a le premier board en réalité dans quelques jours, donc le mode opérationnel va s'établir à ce moment-là. Le contact avec Neil s'est très bien passé, à la fois avec les fondateurs d'Agicap et aussi avec les investisseurs. Je pense qu'avec Philippe, on a été très, très convaincus de la pertinence et du pragmatisme et de la vision en fait de Neil, et on a vraiment senti qu'on partageait la même envie de faire partie de l'histoire d'Agicap et de soutenir Sébastien, Clément et Lucas dans leur histoire d'hypercroissance.
Oui, moi, ce que je peux rajouter, c'est que AGK n'avait pas besoin d'argent. Donc, il y a eu un travail de persuasion à faire en amont. C'était bien de faire un nouveau tour. Et Sébastien et Clément, ils ont un bon caractère. Donc, il a fallu travailler à persuader. Et ils avaient totalement raison, hein, parce que l'argent pour l'argent, ça ne sert à rien. Et ils avaient... Une des choses les plus frappantes chez Agicap, et Sébastien est toujours modeste, c'est que c'est de l'hypercroissance avec très très peu de consommation de cash. Donc on était dans une situation où il n'y avait pas besoin de faire un tour.
Alors pourquoi faire un tour?
Alors justement, pourquoi faire un tour? Il y a plusieurs choses à mentionner ici. D'abord, il y a quelque chose qui agace profondément Sébastien et Clément, c'est qu'ils sont imités par tout le monde.
Et c'est flatteur, il ne faut pas être agacé.
Non, mais il y a une tendance, et c'est un des biais négatifs de l'écosystème, il y a une tendance, au lieu à s'attaquer à des solutions nouvelles, de refaire ce que des autres font mieux. Et donc, lorsqu'on fait un deuxième gros tour, il y a un effet de signal qui est important sur le marché. C'est de dire, on va avoir beaucoup d'argent pour investir, et on va encore accélérer. Et on va notamment investir plus dans le produit. Et donc, le gap de qualité de produit va encore grandir. Donc ça, c'était un élément important à signaler sur le marché. La deuxième chose, c'est que ça va permettre d'accélérer encore l'internationalisation de l'entreprise. Et donc, le marché est dans un premier temps européen, mais pas seulement européen. Et sans vouloir trahir de secret, le fait que Agicap accumule autant de données sur autant de secteurs laisse entrevoir des possibilités d'adjonction au business model qui sont très intéressantes. Moi, c'était mes deux arguments. Mmh. Ensuite, et c'est très important, Nous ne sommes que des investisseurs. Il faut que Sébastien et Clément soient à l'aise avec les nouveaux investisseurs. Ils ont été très à l'aise. Mmh. Et le nouvel investisseur a été tellement convaincu, Grino, que nous, comme au premier tour, nous, il a fallu se battre pour pouvoir réinvestir.
Ça, c'est clair.
C'est génial.
Et parfait. Peut-être pour compléter de mon côté le constat de Philippe, en fait, effectivement, on n'avait pas besoin de cet argent à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour être complètement honnête, on n'avait pas prévu de lever à ce moment-là. Ouais. On s'est fait un peu dépasser par les événements. La raison qui nous a quand même convaincus d'y aller, c'est de se dire, on a essayé d'analyser froidement le marché, froidement la situation. Et la situation nous paraissait tellement unique, tellement exceptionnelle, qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas louper cette opportunité. Oui. L'opportunité, ça a été d'avoir un besoin tellement fort et en fait renforcé par la crise Covid, parce qu'en temps d'incertitude, toutes les boîtes ont besoin de gérer leur trésorerie, toutes les boîtes ont besoin de se piloter encore plus qu'avant.
Oui.
Donc un besoin énorme en France, mais partout, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, quel que soit... Donc un besoin et une taille de marché vertigineuse et personne pour répondre à ce besoin. En fait, on s'est dit que si on prenait pas la place, quelqu'un d'autre allait la prendre et finalement, on allait tout perdre.
Et alors, les prochains pays que vous allez ouvrir, tu peux nous donner un peu de secret, là, quand même ?
De toute façon, si je veux dévoiler le secret final, il faut qu'on prenne chacun des pays européens si on veut être leader en Europe. Après l'Italie, on va très certainement lancer les Nordiques. L'objectif, c'est de lancer au moins un ou deux des pays nordiques d'ici la fin de l'année.
D'accord.
Il y aura les deux autres à adresser également. La Pologne, qui est un gros marché en Europe, le Portugal, la Grèce. Mais globalement, l'objectif dans les 24 prochain mois, c'est vraiment d'être leader en Europe, c'est-à-dire leader dans chacun de ces pays européens.
Parfait, donc je te fixe rendez-vous dans un an. Hein ? On fait un retour d'expérience.
Un an, j'espère que ce sera... On sera peut-être au milieu du chemin. Non, si on est bon, on sera plus loin qu'au milieu du chemin.
Si on regarde le passé, vous allez y être.
Hein. Alors,
je voulais juste vous remercier d'avoir accepté de venir parler au micro de Finscale. Je vais vous demander, comme à chacun de mes invités, une recommandation de bouquin, à moins que vous vouliez encore préciser quelque chose avant qu'on se quitte.
Non. Moi, non. Si, quelque chose quand même. Quelque
quand
chose,
même.
C'est que moi, j'ai jamais vu, peut-être avec Shipeo, c'est la deuxième entreprise que je vois dans mon portefeuille avoir un succès aussi vite en Allemagne. Et quand Partech investit, on a beaucoup poussé pour faire l'Allemagne parce que c'est un peu le marché test. Mmh. Il y a pratiquement autant de PME que dans tout le reste de l'Europe.
Oui.
Mais c'était un pari risqué et je suis très, très impressionné par le succès.
Des PME en plus qui parfois ont un profil, une taille moyenne un peu plus grosse. Et donc, il fallait bien en être sûr qu'elles aient les mêmes besoins que les PME françaises. Non, c'est un très beau succès. Donc pour conclure, on souhaite évidemment le meilleur à Agicap et qui est hyper bien parti pour atteindre ses objectifs d'être la solution SaaS de référence sur le cockpit pour les dirigeants de PME.
Parfait.
Et puis merci Solène pour l'invitation.
Mais vous me laissez quand même une recommandation de bouquin avant de partir.
Alors moi, j'ai pas du tout réfléchi, mais un des seuls... je trouve qu'il y a très très peu de bons bouquins de management.
Oui.
Il y a plusieurs choses dans le même thème. Il y a Olivier Siboni, Vous allez commettre une terrible erreur. Je trouve que c'est un très bon bouquin. évidemment, Thinking Fast, Thinking Slow.
Ouais.
Et moins connu, deux bouquins, Les décisions absurdes. C'est tout autour de la décision. Mais je pense que finalement, c'est ce qu'il y a de plus opérationnalisable pour un patron de boîte.
Et de qui ce bouquin ?
Alors je ne sais plus, c'est l'ancien, c'est deux tomes, les décisions absurdes.
D'accord.
Sur les biais de décision. En fait, ces trois bouquins sont tous sur les biais de décision et la décision. Et je trouve que finalement, pour un patron d'entreprise ou de start-up, c'est les seuls vrais livres qui permettent de réfléchir à ce qu'on vit.
Ouais. Et alors Siboni, je trouve qu'il est génial parce qu'il donne vraiment des cas pratiques. Tu peux appliquer carrément à la lettre ce qu'il te dit dans le bouquin.
Voilà.
Merci, Gabriel.
Alors moi, tu m'avais dit un livre, mais pas forcément en lien avec la gestion de trésorerie et, et les startups. Donc j'ai pensé à un autre livre qui a complètement rien à voir, qui s'appelle Nagori. Donc c'est un roman qui a été écrit par un auteur japonais qui s'appelle Sekiguchi, et qui parle de cuisine, et c'est assez poétique parce que c'est Nagori, c'est un mot qui existe que en japonais, qui veut dire le reste des vagues et qui signifie la nostalgie de la saison qui est en train de nous quitter. Voilà.
Merci.
Donc très différent comme
style.
Bah
oui, écoute, très intéressant. Et Sébastien ?
Moi, je vais rester dans côté business. Un livre qui m'a marqué, qui est une référence en tout cas dans le SAS, c'est From Impossible to Inevitable de Jason Lemkin, que je trouve vraiment impressionnant, parce qu'en fait, depuis le premier jour jusqu'à encore aujourd'hui, j'espère encore demain, il donne le playbook exact de ce qu'il faut faire. Et finalement, les choses sont tellement facilitées avec ce type d'explication que c'est assez impressionnant.
Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup, Solène. À bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.